Après trois longues années d'absence, les fans de Stranger Things n'en pouvaient plus. Les voilà aujourd'hui heureux et rassasiés avec l'arrivée de la saison 4 de la série, dont la première partie a été mise en ligne ce vendredi 27 mai sur Netflix. Alors cette quatrième saison est-elle à la hauteur de l'attente et surtout assure-t-elle la juste dose de frissons ? Annoncée comme plus terrifiante et noire que ses aînés par Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things, cette saison 4 est déjà l'avant-dernière du show. On fait le point sur cette nouvelle saison avec deux fans dans cet épisode d'À la demande, le podcast de télé-loisirs consacré aux plateformes SVOD. Bonjour et merci d'écouter ce podcast. Je suis Émilie Meunier et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés les journalistes Lisa Etcheberry et Justine Charlet pour parler de la très attendue saison 4 de la série Stranger Things. Salut les filles!
Bonjour Émilie!
Bonjour Émilie!
En fin d'épisode, c'est l'animateur télé, journaliste et ami des têtes couronnées Stéphane Bern qui passera une tête pour révéler son dernier coup de cœur série. Série de science-fiction devenue culte qui n'a jamais caché être influencée en partie par les œuvres du maître Steven Spielberg, Stranger Things revient donc pour une saison 4 aussi réjouissante que cauchemardesque. L'énigmatique monde à l'envers refait surface, les personnages emblématiques de la série qui ont bien grandi et des nouveaux venus tout aussi spéciaux luttent ensemble contre une créature capable de jouer avec nos peurs jusqu'à ce que mort s'en suive.
Vous avez tout détruit.
Chère Billy, je sais pas si tu m'entends. Depuis que tu nous as quittés, on vit un vrai cauchemar. Pendant un moment, on a essayé d'être heureux. Normaux. Mais c'est impossible.
Je vous ai fait prendre un nouveau départ loin d'Hawkins. Je pensais que vous y seriez en sécurité.
Alors déjà, Lisa et Justine, avez-vous été heureuses de retrouver la bande de lycéens et l'ambiance typique des années 80 de cette série ?
Eh ben, Émilie, alors oui, pour ma part, j'ai été vraiment ravie de retrouver Eleven, Will, Dustin et toute la bande d'Hawkins. Alors c'est marrant parce qu'ils m'avaient pas du tout manqué, mais dès que je les ai revus, j'étais complètement conquise. Et je pense que c'est parce que je suis née dans les années 80 et que ben, tout de suite, j'ai eu envie de repartir avec eux dans cet univers hyper coloré, hyper flashy, de jouer au bowling en roller, de porter des Converse et puis d'écouter du Kate Bush dans cette saison. Il y a une chanson de Kate Bush, Running Up the Hill, fantastique, que j'ai en tête depuis que j'ai regardé cette saison.
Oui, Émilie, moi de mon côté, j'étais tout aussi pressée de les revoir. Bah, c'est vrai que quand on est né dans les années 80, on a été biberonné aux Goonies, E.T., ce genre de films de bande. Donc Stranger Things, avec ses références assumées, c'est une vraie madeleine qui titille notre enfance. Moi, j'avoue, j'étais un peu surprise de les voir aussi grands. Will, Mike, Lucas, ils ont tous pris 10 cm, ils ont tellement grandi qu'on est presque plus dans l'enfance mais vraiment dans l'adolescence, alors que dans la fiction on est censé être seulement 6 mois après les derniers événements. Donc bon, voilà, à part ce petit bémol, les looks improbables, les coupes de cheveux, ça nous aide quand même à replonger avec délice dans cet univers.
Alors moi, ça m'a pas du tout choqué ce que tu dis, Justine, parce que en fait, ça fait 3 ans qu'on les a pas vus, donc on se doute bien que les acteurs, ils ont grandi, ils ont changé, et en plus pour le coup, ils sont aujourd'hui, ils sont lycéens, on les a quittés, ils étaient collégiens. Donc voilà, moi j'ai pas trop eu ce gap là dont tu parles. Mais par contre, moi j'avais justement, avec ces 3 ans qui se sont écoulés, j'avais complètement oublié ce qui leur était arrivé, et là où où j'ai été hyper surprise, c'est que en fait, j'ai tout de suite raccroché les wagons. Et pourtant, Stranger Things, c'est quand même une série qui est hyper compliquée. Enfin, on est dans le fantastique, il se passe plein de trucs en même temps. Mais là, cette saison, elle remet tout à plat parce que justement, ils sont devenus ados, ils sont au lycée. On les retrouve, ils vivent à Hawkins pour certains, d'autres en Californie. On a le flic Hopper que l'on pensait mort et qui est détenu en Russie. Et en fait, j'ai trouvé que cette multiplication de lieux, on a trois lieux comme ça dans cette saison, et on a des intrigues complètement plein d'intrigues qui apportent une dynamique hyper accrocheuse. On a trois lieux, trois ambiances et une multitude d'histoires avec toujours ce formidable jeu d'aller-retour entre le présent et le passé.
Moi, Lisa, je serais pas aussi enthousiaste sur la multiplication des lieux. C'est génial parce qu'il y a aucun acteur qui est laissé sur le banc de touche. Du coup, tout le monde a une partition à peu près équivalente à jouer. Mais d'un autre côté, ça multiplie les allers-retours entre les différents univers, les différentes intrigues. Moi, j'avoue, par exemple, j'aime pas du tout l'intrigue en Sibérie et la recherche de John Hopper parce que on est dans un univers carcéral très adulte autour d'une forme de guerre froide un peu entre Russes et Américains. On s'éloigne de Hawkins et du côté de la bulle d'enfance et de l'univers de base. Donc voilà, j'aime moins. Mais ceci dit, à partir du 7e épisode, voilà, là on raccroche un peu les wagons et on retourne un peu dans le monde à l'envers. Mais c'est peut-être un peu trop long d'attendre jusqu'au 7e épisode.
Oui, après c'est vrai que l'intrigue autour de Hopper, elle est peut-être un peu longue, mais elle était obligatoire parce qu'on veut savoir ce qui lui est arrivé à ce personnage. Et puis ça nous permet aussi d'être dans un truc carcéral, tu dis, mais qui fait aussi peur. Et c'est ça qu'on aime avec Stranger Things aussi, je pense, c'est avoir peur. Et cette saison d'ailleurs, on a très peur avec le nouveau monstre, le fameux Vecna. On connaît pas bien ses motivations.
Tu le fais si bien.
Il a une voix horrible. On connaît pas du tout ses motivations. Enfin, il s'en prend aux ados, il les démembre d'une façon abjecte. On se doute bien qu'il a un lien avec Eleven, hein. Eleven qui est censé avoir des super pouvoirs, mais là qui en a pas. On ne sait pas quel est son lien avec elle. On attend justement impatiemment de savoir ce qui les relie. Mais bon, en tout cas, ce Vecna, il nous fait hyper peur. Voilà, son apparence, sa voix, tout. Et puis, on a très peur qu'il s'en prenne aussi au héros. D'ailleurs, il y a un épisode assez effrayant où il s'en prend à un des membres de la bande. Je ne dévoilerai pas lequel ou laquelle et je ne dévoilerai pas l'issue. Mais en tout cas, voilà, on a très peur. Et puis surtout, Vecna, il nous offre aussi des magnifiques moments, quoi. La série Stranger Things, c'est une série qui est visuellement bluffante. Et quand on est dans ce monde à l'envers, on est complètement saisi par l'esthétique, quoi. Donc voilà, pour moi, pour résumer, je dirais que cette saison 4, c'est celle du renouveau. Elle est toujours aussi fantastique et sublime et elle est encore plus horrifique, en fait.
Une guerre se prépare. J'ai bien peur que tes amis Hawkins ne soient dans l'œil du cyclone.
Je n'ai plus de pouvoir.
Je ne sais pas comment te le dire autrement, alors écoute. Sans toi, on ne gagnera pas cette guerre.
Vous avez perdu.
Ah, je suis d'accord avec toi. Ce nouveau monstre, il est vraiment super réussi. C'est un espèce d'humanoïde gluant avec une voix horrible, caverneuse. Il a un dos couvert d'appendices qui ondulent, on dirait des serpents. Et puis vraiment, il génère nos pires cauchemars, en fait. Il est capable de prendre possession de notre corps, notre esprit. Et en même temps, on ne sait pas comment le combattre. Il paraît complètement imbattable, insurmontable. Voilà, est-ce que c'est glaçant, on semble complètement impuissant et il fait très peur. Moi je voulais souligner que j'aime toujours autant aussi dans Stranger Things l'espèce de célébration de l'amitié, voilà, on est plus fort parce qu'il y a une intelligence collective. Donc dans les nouveaux épisodes, il y a ça, mais je trouve que dans les points négatifs, bah les histoires sentimentales, elles sont un peu mises de côté. Il y a que des friend zones en fait. Alors sans doute c'est lié à la priorité donnée à l'action. Mais voilà, moi je suis un peu sur ma faim sur le côté amourette.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je trouve que les histoires sentimentales elles sont quand même là. Il y a un rapprochement entre des personnages, encore une fois, je vais pas spoiler. Il y a un rapprochement qu'on espère se concrétise dans la suite. On sent aussi qu'il y a un truc autour de la sexualité de Will qui va peut-être se décider dans les prochains épisodes. Et alors sur Vecna, je reviens sur lui parce que ça me fait penser, oui, tu disais c'est vraiment il nous fait vraiment peur, mais aussi parce que en fait, je pense qu'il est le symbole symbole de il s'en prend qu'aux ados, donc il est le symbole de la peur du passage à l'âge adulte aussi peut-être. Il y a peut-être un truc aussi là-dessus qui est assez intéressant et qu'ils ont voulu faire.
Ne jouez pas les héros. Il n'existe aucune honte à prendre la fuite.
Une seconde. T'en dis quoi, Mike ?
C'est vraiment très risqué. Nos chances de réussite sont de 20 contre 1.
Ne jamais me parler des chances.
Mortel, hein ?
Ouais, mortel.
Et moi, il y a juste un truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est la durée des épisodes. Alors, c'est vrai qu'ils sont très longs, ils font plus d'une heure. Le dernier, là, le septième, il fait 1h30, je crois. Ça peut effrayer... 1h40. Ça peut effrayer certains téléspectateurs. Mais en fait, je sais pas, l'univers de Stranger Things, il est tellement fou qu'on est complètement happé. Et il fallait bien, des fois, 7h30 pour raconter tout ça, nous plonger dans un univers complètement fascinant. Voilà. Après, je suis juste déçue, moi, en fait, de savoir que, qu'il reste encore 2 épisodes. J'aurais peut-être préféré qu'on ait les 9 épisodes d'un coup, quoi.
Mais non, mais c'est génial. Attends, il nous reste 2 épisodes, mais 2 épisodes qui arrivent dans pas si longtemps que ça. Il a fallu attendre un gros mois, quoi. C'est le 1er juillet. Puis c'est 2 épisodes qui vont être très très longs. Ça va être un feu d'artifice, en fait. Moi, je vois ça comme ça. La bande annonce le laisse présager.
Voilà. Ouais, en tout cas, on a hâte.
Oui, comme tu le soulignes, Justine, ce sont les 7 premiers épisodes de la série qui sont aujourd'hui disponibles sur Netflix. Les 2 derniers épisodes seront mis en ligne le 1er juillet sur la plateforme. Donc, au total, la saison compte 9 épisodes, qui ont coûté au total près de 30 millions de dollars à produire, hein, attention. Donc, encore un petit peu d'attente, Lisa. Et sinon, au casting de cette saison 4, il y a quelques surprises. J'ai repéré une légende du cinéma d'horreur, l'acteur Robert Englund, des terrifiants films Freddy, les griffes de la nuit. Alors ici, il joue un certain Victor Krill.
Ouais, il y a Robert Englund, pardon, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Je ne vais pas vous dire ici qui joue, ce qu'il fait, hein. On n'est pas là pour ça. Lui aussi, il est un peu flippant. Et dans cette saison 4, il n'y a pas que lui, hein. Il y a plein d'autres nouveaux personnages, et surtout du côté des lycéens. Le premier, pour moi, c'est Eddie. C'est le chef d'un club qui s'appelle le Hellfire Club. C'est le club de donjons et dragons du lycée. Et en fait, ils adorent faire des jeux de rôle. Et lui, ce Eddie, il est un peu considéré par les autres lycéens comme un danger, en fait, comme le leader d'une secte potentielle. Et évidemment, le soir où il y a le premier meurtre, il est sur les lieux et donc il va être suspecté. Enfin, ça va être le suspect numéro 1 dans l'enquête. Après, dans les nouveaux personnages, on a aussi un garçon qui s'appelle Argyle. Lui, c'est le meilleur ami de Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Winona Ryder, pour resituer. Et ce Argyle, c'est le plus gros fumeur de joint de la Californie. C'est le conducteur d'un van qui permet à toute la bande d'aller au lycée, d'aller au bowling, mais aussi d'échapper à de gros, gros méchants qui veulent leur peau. Voilà. Et enfin, le troisième nouveau perso important, il s'appelle Jason. C'est le chef de l'équipe de basketball du lycée. Alors lui, c'est vraiment l'américain populaire dans toute sa splendeur. C'est le beau gosse qui fait des beaux discours, qui sort avec la chef des pom-pom girls. Il est ultra rationnel, il est vengeur dans l'âme. Il va lui arriver quelque chose et il va vouloir se venger. C'est un caïd, quoi. Voilà.
Et je le disais en début d'épisode, mais cette 4e saison, bien qu'ayant mis du temps à arriver, sera l'avant-dernière du programme. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la future saison 5 ? Est-ce qu'elle mettra aussi des années à être tournée ? Et que peut-on attendre de ses adieux ?
Alors, bon, déjà, c'est vrai qu'il va y avoir le volume 2 de la saison 4, donc le 1er juillet. Là, bon, on sait à peu près peut-être comment ça pourrait terminer. On imagine un gros fight entre Vecna et puis Eleven. Sans doute que tous les personnages disséminés, ça et là, vont se retrouver à Hawkins pour essayer de vaincre ce monstre et d'aider Eleven. Après, est-ce que Max va échapper avec Na? Est-ce que Nancy va pouvoir sortir de l'Upside Down? Voilà, quelques petites interrogations déjà pour l'issue de la saison 4. Et puis pour la saison 5, concernant la date, alors on sait que les frères Duffer ont déjà l'arc narratif jusqu'à la fin de la série. Donc ils ont déjà en tête comment ça va se finir. Maintenant, les acteurs, certains ont donné quelques indices sur ce qui pourrait arriver. On sait que Millie Bobby Brown aimerait un final comme Game of Thrones, donc avec des héros qui meurent. Et elle-même a dit « tuez-moi ». voilà, ils ont essayé de tuer David Harbour qui joue John Hopper, ils l'ont ramené à la vie, c'est ridicule. Voilà, les frères Duffer sont trop sensibles pour tuer leur personnage, donc tuez-moi. Est-ce qu'elle sera exaucée? Est-ce que son vœu sera exaucé? Réponse peut-être dans un an ou plus. On n'a pas encore de date, mais ça serait en cours d'écriture, donc peut-être qu'on n'attendra pas 3 ans cette fois-ci.
On l'espère.
Place maintenant à notre guest, l'ami des têtes couronnées et journaliste Stéphane Bern, a accepté de nous confier son dernier coup de cœur SVOD. Et c'est simple, il est devenu dingue devant la série Netflix La Chronique des Bridgerton.
Je suis devenu dingue de Bridgerton. J'adore, je trouve que c'est d'une grande modernité, c'est très esthétique.
C'est bien qu'à l'image, en tout cas, la diversité soit bien représentée. Je suis un grand défenseur de la diversité, d'une culture qui rend hommage à toutes les différences.
J'aime le côté addictif, c'est-à-dire qu'ils arrivent à relancer. C'est un peu le même principe que Downton Abbey. Où ils arrivent à faire en sorte que vous ayez envie immédiatement de regarder l'épisode suivant.
Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, Justine et Lisa. C'était très chouette de vous avoir sur cet épisode.
Bah merci, Émilie, de nous avoir invités.
Merci, Émilie.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Et n'hésitez pas d'ici là à nous soutenir et à donner votre avis sur le podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.